À partir du moment où on a un cadre légal et on va dire une standardisation et une harmonisation de la production de cannabis médical, on va limiter un tas de déconvenues, on va limiter un tas d'acteurs peu fiables. La définition d'une vraie belle réussite, en fait, elle se mesure à la difficulté du challenge. En formant les autres, on apprend de la même manière. Nous-mêmes, on continue d'apprendre, on continue de... Vous savez, on dit souvent, on apprend de ses échecs. Mais là, en fait, pour nous, on apprend de double échec, les nôtres et ceux des personnes qu'on a en face de nous. Et ne crains rien, parce que dans tous les cas, on peut pas tout maîtriser et on peut pas tout réussir parfaitement, mais on peut choisir de donner le meilleur de nous-mêmes et peu importe le résultat, on aura fait pour le mieux. Quand on a donné le maximum, on n'a plus de regrets à avoir sur rien du tout, on a fait le max dans tous les cas. Parlons Cana.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournable sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité, sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info.
Hey, bonjour, c'est Damien et bienvenue sur Parlons Cana. Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cana. Je m'appelle Damien, je suis passionné du cannabis pour son histoire, ses actualités et ses potentielles applications. Aujourd'hui, je suis avec Flavien Casal, un producteur mais aussi un consultant hors normes qui a produit en France de 2014 à 2018 à son compte et pour la société Haute-Provence Aromatique. Depuis 2018, tu te concentres sur ton activité de conseil en France et partout dans le monde. Flavien, je suis vraiment ravi de pouvoir discuter de tous ces sujets avec toi. Dans un premier temps, on va discuter un peu de qui tu es pour te découvrir. Ensuite, on parlera de ton activité dans la production de chanvre cannabis. Et puis après, on part un petit peu faire le tour du monde au Portugal, en Thaïlande, en Colombie, en Uruguay, pour voir un peu comment est-ce qu'on produit là-bas. Tout ça dans le monde du cannabis, tout cannabis thérapeutique, mais aussi CBD. À la fin, je sais que tu tiens à faire une conclusion assez tranchée sur l'état des infos qu'on relaye sur aujourd'hui, qu'on relaye dans le monde cannabis. Ça annonce d'être un épisode très riche, assez piquant. C'est parti, à toi de jouer. C'est parti.
Oui, bonjour Damien. Donc, d'abord, merci de m'inviter à l'émission de CBD Info, Parlons Cana. Donc, je vais me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Flavien Casal, j'ai 45 ans. Je suis père de trois enfants et je vis dans les Alpes de Haute-Provence. Je travaille moi dans le secteur agricole depuis un peu plus de 20 ans. J'ai une spécialisation dans le greffage et le surgreffage de la vigne et je fais partie d'une équipe de greffeurs international où nous sommes, voilà, comme je disais, spécialisés dans le greffage de la vigne, mais pas que. On fait aussi du greffage fruitier, greffage d'ornement. Voilà. Donc, de par cette activité, j'ai eu l'occasion de pouvoir voyager et découvrir une dimension un petit peu plus internationale de l'agriculture et notamment de la prestation agricole et surtout comment apporter une vraie valeur ajoutée à ce travail agricole qui est bien souvent peu considéré. Je trouve ça dommage, voire même navrant, mais voilà. Et ça m'a permis aussi d'améliorer forcément mes connaissances en langue étrangère. Par la suite, donc j'ai créé les Jardins de Flavien, donc qui est une entreprise de paysagisme et de reproduction de végétaux. Donc comme j'ai dit avant, je suis installé dans les Alpes d'Haute-Provence et les Alpes d'Haute-Provence, c'est le berceau un petit peu des aromatiques en France. On a moins de 40 jours de pluie par an et avec une hygrométrie très faible, moins de 20% en moyenne. Donc je me suis naturellement intéressé à la distillation, à l'extraction d'arômes et d'huile essentielle. Et dans ce cadre, j'ai également occupé un poste d'assistant de recherche sur une station expérimentale sur les plantes à parfum aromatique et médicinal. Et sinon, le côté un petit peu plus fun, ouais, j'ai fait pas mal de skate dans ma jeunesse. J'en fais encore un petit peu, mais un petit peu moins aujourd'hui.
Génial.
Au poids des années. Voilà.
Trop cool. Merci beaucoup pour cette super présentation.
Mais je t'en prie.
Mais alors, du coup, cette bascule entre, donc, tu viens du monde du vin. Et comment est-ce que tu as fait la bascule vers le monde du cannabis?
Alors, en fait, avant que je découvre vraiment ce qu'est le CBD, le THC, le CBN, le CBG, voilà, toutes ces molécules. Je connaissais le chanvre industriel. Donc, ça s'était fait par le biais d'un ami qui s'appelle Ezekiel Lagier, de la société Chaud Compagnon, que je salue, et qui avait investi à l'époque, donc là, je parle d'il y a une vingtaine d'années, et qui avait investi dans un gros malaxeur à chanvre, qui produisait déjà ce que l'on appelle maintenant le hemp crate, donc, qui est un béton de chanvre, et qui est composé majoritairement de paille de chanvre broyée et de chaux hydraulique. Et à l'époque, c'était déjà très, très innovateur. Ce process, qui avait été appelé canosmose, il avait été mis au point par un autre précurseur de la construction chanvre, qui s'appelait Yves Kuhn et que je salue ici aussi. Ensuite, j'ai un pote, en fait, très bon ami à moi, Aurélien, qui me parle d'une nouvelle débouchée sur le chanvre industriel, et il me parle de cette fameuse molécule qu'on appelle cannabidiol. Donc là, on est début 2014. Il y a très très peu de gens qui ont entendu parler de cette molécule, en particulier en France. On a déjà aux États-Unis un premier mouvement qui est parti avec la petite fille Charlotte Fidji qui a été soignée pour ses crises d'épilepsie et surtout le syndrome de Dravet et qui avait commencé à être traitée avec cette molécule. Donc lui suivait un petit peu de loin toutes ces études et il me dit voilà donc que lui a peut-être une débouchée sur cette molécule et que, voilà qui tirait à partir de chanvre industriel donc où les semences ont été vendues à l'époque par la coopérative chanvricole française. Donc nous on connaissait déjà sa culture pour la graine et pour la fibre, mais là l'idée c'était cette fois de cultiver cette plante comme une plante aromatique bénéficiant des conditions climatiques provençales et la composition de notre sol argilo-calcaire, et donc produire un chanvre très aromatique. En fait, on était déjà parti sur cette vision arôme, aromatique, parfum. Donc voilà, on était, comment dire, la Provence était the place to be pour faire ça. Donc on s'est lancé et on a fait un hectare de culture en mode test. Ouais.
Ok, donc 2014, vous lancez un hectare en outdoor. Plein champ, donc.
Ouais, c'est ça.
Et alors, finalement, en 2014, quels étaient les débouchés? Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez pu en faire de cette première production?
En fait, donc, comme je le disais, c'était avant tout une parcelle test. Donc, un hectare, ça représente pas mal quand même de plants de chanvre. On a fait un petit peu des tests de semis différents, des densités de semis différents avec tant de kilos hectares, d'autres parcelles un petit peu moins. Et voilà, on avait déjà un premier recul, on a récolté et on a analysé forcément toute cette matière. Et là, on s'est rendu compte que les taux de CBD et de l'ensemble des cannabinoïdes étaient très intéressants et surtout en comparaison avec ce que l'on avait déjà pu voir un petit peu d'autres producteurs de chanvre, notamment dans l'Aube, en Champagne, en Bretagne, sur pas mal de régions françaises et le pari aromatique était en train de se dessiner car on a bien vu tout de suite que le soleil, le peu de précipitations avait fait en sorte qu'on ait un produit qui est très très qualitatif, très très aromatique.
Mais alors parce qu'en fait les chanvriers qui étaient donc comme tu l'as dit dans l'Aube, en Bretagne, en fait eux aussi faisaient des tests déjà de principes actifs, des tests cannabinoïdes?
Non, là, on parle vraiment de la culture du chanvre industriel traditionnel, donc pour la graine et pour la fibre. Donc, il faut savoir qu'en France, donc en 2014, il y avait à peu près 16 000 hectares, entre 15 et 16 000 hectares de chanvre plantés annuellement. Mais personne ne le faisait pour ses principes actifs. Le marché était essentiellement basé sur la production de graines et de fibres. Chose qu'on a faite aussi. On a essayé de valoriser un maximum de postes et d'applications différentes, du moins quand c'est possible. Et d'ailleurs, à ce sujet, je me rappelle que mes premières participations aux conférences de l'EIH en Allemagne, donc qui est l'association européenne pour les chanvriculteurs, il y avait déjà quelques Français à l'époque, mais absolument personne n'était sur le créneau CBD ou principe actif de la plante. On était vraiment uniquement sur la fibre et la graine.
Donc vous faites figure de pionnier en 2014-2015.
Exactement. On n'était pas les tout premiers, mais on a fait partie des premiers. À cette époque-là, il y avait déjà Sébastien Bégri qui avait déjà initié un petit peu ce mouvement et qui bien sûr fait partie des tout premiers Français à être partis sur ce marché, et en plus on habite dans la même région, donc on a pu se concerter et échanger un petit peu sur ces sujets-là.
Et alors, comment se passent les premières récoltes? Est-ce que vous, à l'époque, il fallait seulement se déclarer en gendarmerie? Il fallait peut-être demander une mutation? Au final, comment est-ce que ça s'est passé?
Alors, le cadre législatif sur la culture du chanvre, il était très clair. Alors, en fait, donc comme je le dis, on récolte, on fait analyser notre produit, et là, en fait, on se dit plutôt, voilà, qui va pouvoir nous acheter ça? Qui sont les acteurs du CBD en Europe aujourd'hui? Donc, on est parti un petit peu aussi, chose qu'on avait déjà faite, hein, forcément dans l'année en cours, mais bon, là, on s'y est mis un petit peu plus sérieusement, et on est parti voir un peu qui étaient ces fameux acteurs du monde du CBD. En Europe, il y avait pratiquement personne, mais vraiment pratiquement personne. Notre clientèle, elle était plutôt axée sur les États-Unis, où là, c'était vraiment en train de se développer beaucoup plus fortement. On a trouvé, donc, en fait, on a trouvé des clients potentiels qui seraient intéressés. On leur envoyait nos analyses et quelques semaines après, ils venaient en Provence pour voir ces fameuses plantes, parce que eux-mêmes n'avaient jamais vu des taux aussi élevés, et ils étaient donc très très curieux de voir un peu ce qu'on était capable de faire. Et par la suite, voilà, contrat culture, on avait une promesse d'achat.
Contrat culture, tu donc peux nous expliquer ce que c'est contrat culture?
Alors, un contrat de culture, c'est quand un client vient voir un producteur ou un agriculteur et va lui dire simplement, voilà, cette année, j'ai besoin d'une tonne de matière sèche. Je propose tel prix pour cette tonne de matière sèche. Pouvez-vous nous la produire ou pas? Dans quelles conditions? Et voilà. Donc, là, quelque part, on est un petit peu sur le coup d'envoi après ce test qui nous a pas vraiment coûté grand-chose. C'est-à-dire, comme nous, on est agriculteur, on a déjà tous les outils en main. Les terres agricoles, les tracteurs, voilà, on avait déjà tout l'ensemble des connaissances pour mener à bien ces cultures.
Et alors, du coup, en 2014-2015, tu parles d'analyse, c'était des analyses cannabinoïdes, voilà, c'était des analyses de cannabinoïdes et des analyses terpéniques. Qu'est-ce que vous testiez et comment? Quel laboratoire en 2014-2015 était ouvert à faire ce type d'analyse?
Alors, en fait, on a fait appel à un laboratoire privé qui puisse, voilà, qui était équipé d'HPLC. HPLC, c'est un chromatographe en phase liquide. Donc, c'est un appareil d'analyse qui va mesurer l'ensemble des cannabinoïdes et qui vont apparaître sous forme de pics sur un graphique, et qui va apparaître sous forme de pics et où on va pouvoir quantifier au plus précisément les taux de cannabinoïdes présent dans la plante.
Donc là, vous produisez pendant 4 ans. On va pas s'étendre sur les détails, mais ça a été très très compliqué, tellement compliqué qu'en fait, finalement, la production s'arrête un peu là et tu préfères te rediriger vers une activité de conseil pour conseiller d'autres producteurs. Comment s'est fait un peu cette bascule, si tu peux nous en parler en quelques mots? Et ensuite, donc depuis 2018, quelle est ton activité? Dans quel pays tu voyages? Est-ce que tu pourras nous parler un petit peu des différences de production et de cadre légal entre le Portugal, la Thaïlande, la Colombie, et peut-être d'autres produits, d'autres pays que tu vois aujourd'hui comme des bons pays d'accueil pour les producteurs?
Bons pays d'accueil.
Mais justement, en fait, donc de 2014 à 2018, on a produit des dizaines d'hectares avec forcément de grosses quantités de biomasse produites. Mais donc, comme certains s'en rappellent, avant 2018, le cadre légal autour du CBD était beaucoup plus flou qu'il l'est aujourd'hui. On parlait très souvent de gray zone. Moi, j'ai décidé de sortir un petit peu de cette gray zone pour pouvoir travailler un petit peu plus sereinement. Alors, je l'ai pas dit dans la présentation, mais moi, je suis d'origine portugaise et j'avais déjà quelques contacts donc au Portugal qui se lançaient donc dans l'aventure du cannabis médical avec les premières licences de production qui commençaient à être délivrées au compte-gouttes par la société de régulation du médicament, en fait, portugaise, donc l'Infarmed. Et donc, j'ai décidé de regarder un petit peu plus ce qui se passait chez nos voisins pouvoir travailler encore une fois dans des cadres plus sereins, plus sécurisés, sans risquer d'avoir des perquisitions, d'avoir des gardes à vue, chose que la plupart des acteurs, les principaux acteurs du CBD en France connaissaient malheureusement. Moi, c'est pas quelque chose forcément avec quoi j'étais à l'aise. Et voilà. Donc en 2018, il faut quand même. Enfin, moi, il y a quand même un événement majeur qui a fait bouger les choses. C'est que j'ai fait la rencontre d'un breeder exceptionnel, donc qui s'appelle Arnaud et qui dirige la société Silic Acids. Et nous décidons en fait finalement ensemble de partir au Portugal où sera embauché en fait comme consultant privé à l'année, donc en poste fixe, dans une société pharmaceutique moitié portugaise, moitié canadienne, qui venait d'obtenir cette licence de production. Mais là, on parle vraiment de médical.
Et justement, quelle est la différence entre une culture pour faire une fleur qui va sur le marché du CBD et la culture d'une fleur qui va sur le marché pharmaceutique?
Alors, en fait, une fleur qui va aller sur le marché pharmaceutique, il faut bien comprendre qu'elle est produite sous des protocoles très stricts, vraiment très, très stricts, de la même manière que, par exemple, on a des sociétés pharmaceutiques, notamment des fleurons pharmaceutiques français Sanofi, qui va par exemple cultiver avec Francopia des dizaines de milliers d'hectares de pavots pour l'extraction de la morphine et pour leurs médicaments. C'est exactement le même genre de licence. C'est-à-dire que c'est une licence pour exploitation de produits stupéfiants. Donc là, en fait, la demande, elle est plutôt axée sur le THC, sur les painkillers, comme on les appelle. On va dire que sur cette entreprise, 85% de la production était dédiée donc à ces painkillers, donc des plantes à haute teneur en THC, plutôt que du CBD. Après, il y avait quand même une petite partie, en effet, réservée à la production de CBD. Mais voilà, encore aujourd'hui, l'ensemble de la filière pharmaceutique est beaucoup plus axé sur le THC que sur le CBD.
Bien sûr. Et donc, du coup, aujourd'hui, au Portugal, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation du cannabis au Portugal? Toi qui as des origines portugaises, qui va régulièrement. Comment se passe aujourd'hui, d'un point de vue, tu vois, de consommation? Si on peut se faire un peu deux volets, un sur la production et un sur la consommation. Comment est-ce que ça se passe au Portugal?
Par rapport à la consommation, je dirais que ça a pas forcément changé grand chose puisque de toute façon, on reste dans un cadre pharmaceutique. Donc, tout ce qui est produit au sein de ces sociétés, en aucun cas ne se retrouvera, sur le marché récréatif, par exemple. L'accès au cannabis médical reste difficile parce que même avec des licences de production, la distribution est elle aussi soumise à des tas de contraintes. Et encore aujourd'hui, il reste difficile de trouver du cannabis médical prescrit en pharmacie. Il y a quelques pharmacies qui le font, mais c'est encore très, très épisodique. Et beaucoup de gens se battent justement au Portugal pour ça, pour rendre accessible ces, ces produits.
Et donc, en fait, la production portugaise, elle est quand même très interne ou elle sépare en exportation?
Nous, sur la société où on travaillait, elle est exclusivement réservée à l'exportation, notamment l'Allemagne.
Et oui.
Où justement, là, ils avaient déjà bien avancé, il y avait déjà des programmes de traitement faits à base de cannabis, THC ou CBD, dans un cadre législatif très sûr et très contrôlé. Et d'ailleurs, à ce propos, je disais que donc Arnaud était breeder pour la société Silic Acids, et on a pu mettre au point du coup des génétiques qui puissent être adaptées à ce marché. Et donc après beaucoup de travail, donc nos génétiques ont finalement été approuvées par l'Infarmed, donc par l'agence du médicament portugaise, et on a pu réaliser donc les premières importations de ces graines, les travailler et pouvoir obtenir des phénotypes à fort potentiel.
Et le futur du cannabis au Portugal, comment est-ce que tu le vois?
Alors, je pense que le cannabis au Portugal continue d'intéresser en particulier des sociétés étrangères, parce que les investissements sont très lourds dans des cadres comme ça. Il faut savoir que tout est normé, labellisé, c'est-à-dire qu'on a des labels comme GAPC, GMP, qui sont en fait des labels de bonnes pratiques culturelles et environnementales. Ça veut dire, par exemple, on va avoir un lieu de production en serre, il va falloir absolument que le local de séchage ou de transformation soit collé à cette serre et qu'à aucun moment les plantes ne puissent transiter par l'extérieur. On est toujours sous un environnement contrôlé, sous caméra, avec bien entendu des détecteurs d'empreintes à chaque sas, chaque porte. On est obligé de remplir des formulaires, de s'identifier. Encore une fois, c'est quelque chose de très très contrôlé. Même si, par exemple, on doit faire une taille ou quelconque déchet organique, par exemple, provenant de ces plantes-là, doivent être stockées, référencées, pesées, et elles seront détruites par qui de droit quelques semaines plus tard.
Ah oui, d'accord. Donc c'est voilà, très, très contrôlé,
c'est normal. Donc nous, par exemple, pour être consultant dans une boîte pharma qui produit du cannabis médical, on a dû vraiment montrer patte blanche. Il y a une petite enquête qui a été faite sur nous. Forcément, on doit donner nos casiers judiciaires, montrer qu'on n'a absolument jamais eu d'ennui avec la justice, sur quelconque sujet que ce soit. Il y a une sélection en fait qui est faite au départ pour limiter toute dérive, tout problème, tout.
Oui, c'est normal. Oui, c'est normal.
Voilà.
Surtout qu'à la fin, c'est quand même un médicament qu'on va donner à des personnes qui sont malades, qui ont tête affaiblie, qu'il faut que le.
Exactement.
Soit vraiment quel de Z.
Exactement. Et c'est
que ce soit, enfin, autant le contrôle que nécessaire.
Oui, et c'est surtout, il faut qu'il puisse y avoir une traçabilité de tous les produits qui vont sortir de ces sociétés et qui vont être donnés à des patients. Et ça, forcément, c'est important. Ça nous donne aussi une petite image de ce que devrait être, en fait, le marché du cannabis légal en France et en Europe et dans le reste du monde. Même pour le CBD, en fait, je dis pas qu'il faut réglementer aussi fortement CBD, mais par contre, ce que moi j'ai pu remarquer, c'est qu'à partir du moment où on a un cadre légal et, on va dire, une standardisation et une harmonisation de la production de cannabis médical, on va limiter un tas de déconvenues, on va limiter un tas d'acteurs peu fiables, puisque justement, en fait, il faudra se plier à tout ce cadre, tous ces protocoles, et je pense que ça peut être que qualitatif.
Ah, complètement.
Au final.
Et d'ailleurs, ce serait aussi mieux pour les producteurs qui eux savent dans quel cadre ils évoluent et les risques. Les coûts qu'ils encourent ou qu'ils n'encourent plus. Donc, ce serait mieux pour le consommateur qu'il y a des produits tracés. En tout cas, il est mieux éclairé pour choisir ce qu'il consomme. On en reparlera en dernière partie. C'est vraiment un sujet très intéressant. On en reparlera en dernière partie. Pour continuer un peu le tour du monde. Dans quel pays ensuite est-ce que tu viens travailler?
Alors, en fait, en 2018, comme je disais, là, avec la rencontre avec Arnaud de Silic Acids, on comprend quand même le besoin un petit peu de se fédérer, dont chacun de notre côté, on a aussi notre propre réseau de sachants, et on se dit que De toute façon, on peut pas, si on veut évoluer sereinement, on peut pas continuer de, en tout cas, il y a des tas d'activités qu'on pourra pas continuer de, qu'on pourra pas faire en France, d'ailleurs. Et c'est
comme,
pour cela
quel type d'activité, tu vois?
Et ben, par exemple, le développement génétique.
D'accord.
Le développement des semences, c'est quelque chose qu'on peut absolument pas faire en France, parce qu'on est de toute façon lié au catalogue européen pour les graines de chanvre industriel. Pour vous donner une idée, en 2014, quand on voulait extraire du CBD, on plantait de la Futura 75, qui était à peu près, qui était la variété qui avait, on va dire, le plus de CBD avec un meilleur ratio CBD-THC dans la plante. On parle de, allez, 4% de CBD dans le meilleur des cas, de 2 à 4%. Actuellement, on dispose de génétiques qui peuvent aller jusqu'à 20% de CBD et qui vont rester en dessous, on va dire de, allez, pour faire large, en dessous de 1% de THC. La France, elle limite ce taux à 0,3 actuellement. Donc là, on parle vraiment d'infime concentration de THC. Mais bon, voilà, il y a une règle, c'est les 0,3. Donc à partir de là, si on peut pas aller au-dessus de ces 0,3, c'est-à-dire que même pour la recherche et le développement, on aurait besoin de tester des génétiques qui sont au-dessus de ces taux. En France, on n'a pas le cadre légal pour le faire. Donc, on l'a fait un peu au Portugal avec le THC, donc dans le cadre pharmaceutique. Et par la suite, donc, on a décidé d'aller en Amérique du Sud. Donc là, c'est plutôt Arnaud qui est sur cette partie du travail, où les licences de production sont beaucoup plus faciles à voir, clairement. C'est plutôt une question financière, en fait, hein. Il faut, encore une fois, il faut pouvoir montrer patte blanche sur notre background, tout ça. C'est sûr que si on est un narcotrafiquant, on va peut-être avoir du mal à avoir une licence de production du gouvernement colombien ou uruguayen.
Oui, parce que là, du coup, tu es voilà. Quel pays en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, pardon.
La Colombie et l'Uruguay, qui sont à peu près sur les mêmes bases législatives.
Et production là-bas.
Un petit peu plus longtemps. Et en termes de production, eh ben, on peut faire de la recherche à grande échelle. Voilà. Donc, en ce qui concerne le volet sud-américain, donc, principalement l'Uruguay et la Colombie, donc, nous, on s'attache particulièrement à la production de semences et la recherche génétique, parce que depuis le départ, on pense que c'est là où tout commence à la graine, et que si on arrive à, justement, à produire en quantité industrielle, puisque la demande de toute façon elle est énorme, donc c'est pas le but de produire quelques dizaines de milliers de graines, là on parle vraiment de millions de graines, et ça va être axé aussi bien sur le THC que sur le CBD. Il y a pas vraiment de, comment dire, c'est deux marchés très très distincts. Donc le THC va être strictement cantonné à l'industrie pharmaceutique. Encore une fois, c'est des graines qui vont pouvoir être vendues dans ces sociétés qui exploitent du cannabis médical dans les pays où elles ont le droit de le faire.
Donc là, c'est vraiment une zone génétique. Et ensuite, après, ces graines sont envoyées aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie.
Exactement, en Angleterre, en Asie.
Et en fait, est-ce qu'il y a en termes de proportion graines, fleurs ou produits finis, c'est vraiment plus de la graine qui est faite ou il y a aussi plus de l'adduction de produits cannabis?
En fait, nous, notre but, c'était vraiment d'abord axé sur la production de semences et la recherche et le développement avant tout, en fait, pouvoir chercher, pouvoir développer de nouvelles génétiques et adapter au marché européen principalement. Donc là, on est un petit peu dans l'anticipation. La production de fleurs, elle est présente aussi. Ça va plus se faire par rapport au partenariat qu'on va pouvoir faire là-bas avec aussi d'autres entreprises qui produisent elles exclusivement de la fleur et pouvoir les aider à exporter donc leurs produits vers l'Europe et le reste du monde.
C'est quand même dingue quand on pense que en 2014, tu t'es lancé dans le CBD en France et qu'au final, 4 ans après, t'es obligé de t'expatrier à l'autre bout du monde, littéralement, pour pouvoir juste faire de la recherche, pour pouvoir juste mettre au point des graines qui sont naturellement plus efficaces. Et en plus, tout ça, ça s'arrête pas là. Du coup, après, tu repars en Thaïlande. Qu'est-ce qui t'amène en Thaïlande?
Alors, en Thaïlande, c'est un petit peu différent puisque, comme vous savez peut-être, depuis juin 2022, la Thaïlande a ouvert complètement son marché du cannabis. D'abord avec le CBD et puis là, on le voit bien avec le THC. Donc, nous, on a un petit peu vu ça comme les prémices de ce qui allait se faire en Europe dans les prochaines années. Et on a surtout vu l'occasion de mettre en pratique notre savoir-faire et encore une fois de pouvoir le partager avec le plus grand nombre.
Et alors comment
donc,
ça se passe?
Ben on a deux personnes, on a deux growers qui font partie donc de notre réseau qui sont installés là-bas depuis novembre dernier et qui apportent en fait nos techniques culturelles à la Thaïlande où voilà l'essentiel des produits sont produits en hydroponie donc en intérieur et sur des supports de culture, en fait. On va vraiment parler de supports de culture.
Ok, donc tu nous parlais du coup des supports de culture et surtout des supports de culture qui sont utilisés en Thaïlande. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Voilà, donc les supports de culture, donc en hydroponie, particulièrement donc en culture indoor, on va surtout parler de laine de roche, de billes d'argile, fibres de noix de coco, de choses comme ça. Donc ça, c'est uniquement des supports qui sont, on va dire, inertes et ils ont besoin d'apports nutritionnels journaliers. Donc ces apports quotidiens, ils vont être réglés au millimètre et on va parler en phase de nutrification. Donc suivant le développement de la plante, on va pas avoir forcément les mêmes quantités d'engrais qui vont être mises en place. Nous, notre façon de comment je peux dire ça. Nous, notre vision en fait de la culture de cette plante, elle va beaucoup plus se rapprocher du naturel, de ce que fait la nature elle-même. Donc en fait, on travaille exclusivement sur ce qu'on appelle super soil. Donc là encore une fois, je fais un petit coucou à la société Terralba qui est un précurseur dans ce domaine et qui est à mon sens est ceux qui sont allés le plus loin en France par rapport à ça.
Super soil, du coup, c'est le fait de...
Donc, un super soil, en fait, c'est un mélange, en fait. C'est une grosse recette de différents composants. Donc, je vais pas tous vous les citer maintenant, mais je dirais, on va dire, dans les principaux, on va avoir du lombricompost, on va avoir des guano de volaille, des guano de chauve-souris, par exemple, qui chacun, en fait, ont leur valeur nutritionnelle propre et qui vont vraiment nous apporter quelque chose de très complet au niveau du substrat. Et en plus de ça, on va intégrer tout un tas de minéraux, de roches volcaniques, type azomite, zéolite, des choses comme ça, qui elles vont être, entre guillemets, des refuges un peu pour tous les micro-organismes qui composent un sol vivant. C'est pour ça que, justement, pour revenir à la Thaïlande, j'ai vu plusieurs fois dans des dispensaires, que les fleurs sont produites en living soil, donc voilà, sur le sol vivant. Et un sol vivant, il n'a pas besoin de nutriments extérieurs. Un sol vivant, on lui apporte de l'eau, une eau de bonne qualité, bien sûr, et tout va se réguler par la suite. Avec un sol vivant, on fait beaucoup moins attention au pH, par exemple, qui va être régulé par le substrat en lui-même. Et la plante va pouvoir aller piocher un peu ce qu'elle a besoin au moment où elle en a besoin, un peu comme nous, quand on va au restaurant, on commence par l'entrée, après on prend le plat, on finit par le dessert, c'est nous qui décidons. Personne va nous dire, voilà, c'est maintenant, là, il faut manger le dessert, tu veux ton dessert. Non, c'est nous qui décidons si on a envie de prendre notre temps pour savourer notre plat et prendre le dessert beaucoup plus tard ou voilà. Nous, on considère que la nature, elle est déjà parfaite et que on a simplement à l'accompagner et comprendre ce processus naturel. Une fois qu'on a compris ça et qu'on a donc ça nous donne quand même une vision d'ensemble beaucoup plus juste et le résultat final est sans comparaison parce que de la même manière qu'avec le vin, un cépage, pour vraiment développer tous ses arômes, il va devoir aller puiser dans des couches, par exemple calcaire, dans des couches de schiste, dans tout un tas de un complexe très très varié qui va être dans le sol. C'est la notion de terroir, tout à fait. Donc en fait, les produits sélectionnés et choisis par on va dire les médecins ou les personnes qui vont traiter des patients avec du cannabis médical, ils se sont un petit peu trop focalisés, à mon sens, sur les taux de cannabinoïdes, que ce soit THC, CBD, donc là en particulier THC sur les painkillers, et ils n'ont pas vraiment pensé à tout cet effet entourage, et que peut-être qu'en donnant un produit qui est très très fort à une personne qui en plus de ça n'a jamais consommé de cannabis de sa vie, les réactions elles ont été diverses et variées. On a eu Il y a des personnes, par exemple, qui ont fait des fortes crises d'angoisse ou un petit peu de paranoïa. On va plus parler d'angoisse, vraiment, et qui ont été directement causées par la molécule de THC. Alors, certainement qu'ils avaient moins de douleurs, mais voilà, ça a été contrebalancé par des effets psychologiques et d'impression très, très, très désagréables. Et donc, il y a beaucoup de lots qui sont revenus à la société productrice, disant, voilà, c'est pas adapté. Et finalement, il y a eu des lots qui ont été sélectionnés, qui étaient beaucoup moins forts en THC, mais pour lesquels, en fait, c'était des plantes qui avaient un profil aromatique beaucoup plus développé, avec des composés olfactifs en grand nombre. Et là, on s'est rendu compte que, avec moins de THC, voire la moitié de THC, on avait un effet beaucoup plus relaxant, beaucoup plus apaisant. Donc, le painkiller, on l'avait, mais en plus de ça, on n'avait pas les effets secondaires d'une plante très très forte en THC. Et à mon sens, c'est vraiment justement cet effet entourage, toutes ces molécules aromatiques qui jouent leur rôle et qui, voilà, comme c'est très à la mode là, de parler d'effet entourage ou de full spectrum, c'est-à-dire qu'on prend en compte la plante dans son ensemble et on considère que voilà, on a besoin de l'ensemble de ces molécules et elles vont travailler ensemble pour nous aider. En tout cas, c'est la vision qu'ont maintenant de plus en plus de médecins qui commencent un petit peu à comprendre. Et à ce sujet, c'est pour ça que nous, on s'est intéressé avec Arnaud à la distillation des huiles essentielles du chanvre très très tôt, dès 2018, où d'ailleurs Arnaud a fait construire un alambic mobile qui nous permet en fait de nous déplacer sur les parcelles chez le producteur et de distiller sa production, de distiller les composants olfactifs de sa plante sur place avec une technique ultra adaptée et du matériel qui a spécialement été conçu pour ça.
Et alors justement, Flavien, je suis très très content que tu parles d'huile essentielle parce que c'est un produit qu'on ne retrouve pas du tout aujourd'hui sur le marché du CBD en France, en tout cas. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement la différence entre une huile essentielle et une huile sublinguale?
Alors, en fait, la différence majeure entre une huile essentielle et un extrait, par exemple, CO2 supercritique ou un extrait à l'alcool, c'est que l'huile essentielle, donc c'est une distillation à la vapeur, et on va aller chercher uniquement les composants olfactifs. Donc vous avez sûrement entendu parler du myrcène, du pinène, alpha, bêta pinène.
Est-ce qu'on peut dire qu'on va chercher plus les terpènes que les cannabinoïdes? Ça te parle? Enfin, je veux dire, c'est une bonne manière de décrire.
Excuse-moi, c'est un petit peu assuré ta question.
Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, on va plutôt chercher les terpènes que les cannabinoïdes avec cette technique-là?
Non, avec la technique vapeur, on ne sort aucun cannabinoïde. Les cannabinoïdes ne peuvent pas être extraits à la vapeur. Il en faut absolument un solvant. Là, on ne prend aucun cannabinoïde. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que là, du coup, on peut voir en fait. On peut voir les propriétés d'une huile essentielle sans ces cannabinoïdes et on voit bien qu'il y a des propriétés et il y a des complexes très différents de chaque plante, entre chaque plante. Et par exemple, en moyenne, sur une plante, on arrive à trouver entre 150 et 200 composés aromatiques.
C'est incroyable. On parle de plus en plus de terpènes.
C'est quand même une richesse, voilà.
Mais là, ça va vraiment.
En fait, c'est ce qu'on appelle terpène.
Oh là là, incroyable.
Exactement. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous, on a été dans les premiers à s'intéresser à la distillation de l'huile essentielle de chanvre, et justement afin de mettre en avant les propriétés des terpènes dans la plante. Et plusieurs années après, d'ailleurs, ces études montrent l'importance de tous ces terpènes, riches et variés, et ainsi que leur rôle pour notre santé. C'est devenu une évidence, quoi.
Et donc, tu penses que ça, c'est quelque chose qui va se répandre de plus en plus en France, mais même dans le monde, toi qui as une vision très, très internationale?
Je pense qu'il va falloir faire avec tout. Je pense que l'isolation de la molécule, c'est pas forcément, nous, c'est pas du tout notre vision des choses bien faites. Quand on isole une molécule et qu'on la sépare de son entourage, bien souvent, elle est plus grand chose. Elle est plus grand chose. On va s'attacher à un principe actif, mais on oublie encore une fois, voilà, tout ce qu'il a, tout, tout ce qui la compose, tout ce qui l'entoure, tout on va dire l'écrin dans laquelle l'écrin dans laquelle elle se trouve. C'est pour ça que par exemple nous notre vision, on croit pas du tout aux isolats, toutes ces choses-là. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais lu une étude de Manuel Guzman qui parle justement de ces isolats très purs, notamment de CBD, et ces études ont bien mis en avant certains problèmes, notamment au niveau du foie.
Oui, de surconsommation de CBD.
Tout à fait. Après, bon, nous, on n'est que des agriculteurs, on prétend pas du tout être médecin ou des choses comme ça. Simplement, voilà, on essaie vraiment de regarder un peu ce qui se fait, justement, par rapport à ce que peuvent dire des médecins sur le sujet, et qui nous, quelque part, nous conforte, mais plus dans notre façon de travailler, de se dire, voilà, on fait les choses bien et en conscience. Tant pis si c'est pas forcément ce qui est économiquement le plus rentable aujourd'hui. Moi, de toute façon, je pense que dans l'avenir, les gens vont être de plus en plus demandeurs de produits le plus naturel qui soit, que ce soit pour des applications médicales ou pas. Je pense que c'est important et surtout de ne pas tromper le consommateur, de pas penser qu'il consomme quelque chose de naturel parce qu'il y a marqué CBD dessus, alors que ça l'est pas du tout. On sait tous que maintenant, en Asie, on peut acheter du CBD de synthèse très, très pur pour environ une centaine d'euros. Enfin, c'est des produits qui sont, on va dire, qui sont pas de très bonne qualité, mais par contre, qui répondent à un taux, à un milligramme. Alors là, c'est sûr qu'on n'aura jamais de THC dedans. Donc, d'un point de vue légal, c'est parfait. C'est un produit qu'on peut commercialiser rapidement, sans contrainte. Par contre, voilà, moi, quand j'ai lu des études comme celle de Manuel Guzman sur le sujet, et elles mettent en garde en fait sur la consommation régulière et quotidienne d'isolat qui pourrait par exemple provoquer des blocages enzymatiques au niveau du foie, des choses comme ça. Encore une fois, nous, n'étant pas du milieu médical, on va pas prendre le risque de produire quelque chose qui pourrait être, ou de faire produire quelque chose qui pourrait être un danger pour le consommateur. Et à contrario, on n'observe pas du tout ces effets néfastes avec par exemple un extrait du spectrum, mais qui lui va contenir un petit peu de THC et qui peut poser problème sur sa distribution. C'est pour ça que c'est important que les choses avancent aussi en bonne intelligence par rapport à ça. On voit très bien avec la Suisse que on peut produire du chanvre thérapeutique, on va l'appeler comme ça, jusqu'à 1% de THC sans qu'il y ait vraiment d'effet psychotrope, ou que ce soit en tout cas un danger pour la santé publique.
C'est vrai que le cadre doit vraiment être posé rapidement pour que les acteurs de la filière et surtout les consommateurs puissent avancer sereinement, consommer sereinement.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est même une urgence, je pense, encore aujourd'hui, même si les choses, comme on l'a dit, petit à petit prennent leur place et se normalisent, j'allais dire. Je pense que c'est quand même important d'aller dans le bon sens et d'essayer d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Mais je suis assez optimiste quand même sur ce sujet-là.
En espérant que la seule boussole qui guide les choix de justement cet encadrement, ce soit la santé, finalement, et que ce soit pas la facilité de mise en place ou les enjeux politiques ou géopolitiques. Finalement, si le...
Tout à fait, je pense que c'est vraiment le bon sens.
Pardon,
le bon sens qu'il faut ramener sur... Oui, pardon. Ouais, en fait, je pense que c'est vraiment le... On a besoin plus que jamais de bon sens, de réfléchir ensemble aussi, tous les acteurs de la filière, les autorités compétentes donc en la matière, que tout le monde comprenne bien ce qui se passe et éviter par exemple ce qu'on a connu au début de ce marché, où on a des produits qui sont plus que douteux au milieu d'autres produits qui sont très qualitatifs. Voilà, c'est le consommateur qui sera le premier impacté par ce manque de clarté, ce manque de cadre. Donc nous, encore une fois, je vais revenir sur le pharma, mais ce désir de vouloir aller travailler dans ce milieu pharmaceutique, c'était aussi davantage pour se préparer un peu à ce que l'Europe allait faire dans les années à venir, d'être tout simplement prêt quand ça arrivera dans notre pays et que on pourra enfin, enfin que le gouvernement français délivrera des licences de production par rapport au cannabis médical, bien sûr, et être là, être présent et avoir déjà en fait un peu de cette expérience, ce background dans ce secteur pour pouvoir être plus efficace, plus
Eh bien, écoute, on l'attend avec impatience. En tout cas, j'ai adoré discuter avec toi là pendant une heure. On a bien compris tout ton parcours en partant de 2014, de tout au début de l'émergence du CBD, puis ensuite après avec un véritable tour du monde pour aller chercher dans les pays les plus accueillants ce que tu pouvais y tirer, que ce soit la production ou la recherche et le développement. Est-ce que tu vois quelque chose d'important? Est-ce que tu n'aurais pas discuté, à ajouter avant la fin?
Alors peut-être il y avait une question qui était intéressante, c'était racontez-nous votre plus belle réussite.
Ouais, et bien écoute, je suis super curieux, alors ouais. Quelle est ta plus belle réussite?
Ouais, donc alors déjà, alors en fait je dirais que la définition d'une vraie belle réussite, en fait elle se mesure à la difficulté du challenge. Dans le milieu pharmaceutique, on est soumis à tout un tas de protocoles entourant la production de cannabis, donc GMP, GAPC, et on a réussi donc avec mon partenaire Arnaud à intégrer efficacement nos recettes de super soil et les traitements au thé de compost oxygéné. Donc ça, c'est pareil, j'invite tous les auditeurs à aller regarder un petit peu ce que c'est le thé de compost oxygéné.
Attends, comment est-ce que tu le dis? Le thé comme un thé. Comme la lettre du thé?
Le thé café.
Ah voilà. D'accord, le thé café.
Non, comme le... Voilà, génial. Thé café. Okay, donc okay. En fait, c'est un mélange de compost qu'on va mettre dans un sachet de thé.
D'accord.
Et qu'on va faire infuser dans une cuve qui va être, elle, oxygénée.
Okay.
Avec un petit compresseur et un système de nébulisation qui va envoyer des petites bulles d'air très très fines et qui vont maintenir oxygéné tout ce mélange.
D'accord, ok.
Voilà, donc ce qu'on a réussi à faire donc avec mon partenaire Arnaud, c'est intégrer efficacement donc nos recettes de super soil et de thé de compost oxygéné dans les modes de culture habituellement cantonnés à l'hydroponie. Notre vision, c'était de rapprocher au maximum des modes de culture plus vertueux et 100% naturels dans un environnement ultra contrôlé et normé. Et on a également pu cultiver en outdoor parce que c'est ce que nous, quelque part, on préfère. Ça pourrait faire un tout autre sujet. On pourrait aussi en parler pendant des heures, mais forcément, quand une plante grandit à l'extérieur sous le soleil naturel, elle développe pas les mêmes choses que en intérieur, et on peut même voir des différences notables entre une greenhouse, une serre, donc qui est toujours sous le soleil naturel, hein, mais qui va être, on va dire, les rayons solaires vont être quand même altérés par une bâche plastique ou en verre, qui va couper certaines informations. On se rend très bien compte, et notamment au niveau du profil aromatique, qu'on va avoir des différences notables, et qu'on a même apparition de certaines molécules d'un côté comme de l'autre qui ne se trouvent pas de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en extérieur, on va avoir, c'est là où on a le profil aromatique le plus riche, et on va avoir des molécules qui n'existent pas, même en greenhouse. Elles n'apparaissent pas du tout à aucun moment, même en faible quantité.
Donc, c'est incroyable ce que tu montres. Ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment, ouais, selon le produit final qu'on souhaite, il y a vraiment des modes de culture qui aujourd'hui déjà sont identifiés, qui sont très différents.
Exactement.
Et ça, le temps,
exactement,
le temps que l'information se fasse, qu'on trouve vraiment comme les recettes que tu as trouvées, qu'on trouve des choses un peu normalisées, que cette information redescende jusqu'au consommateur, pour que le consommateur puisse choisir tel produit en outdoor, parce qu'il sait qu'en outdoor, il y a peut-être des terpènes plus riches et moins cannabinoïdes, ou alors en indoor, parce que là, il sait que le produit va être un peu plus fort en cannabis, surtout constant dans la qualité. C'est incroyable. Il y a encore tout à faire, il y a encore tout à découvrir. C'est vraiment incroyable.
Et c'est ce qui est passionnant, en fait, un petit peu dans le monde végétal, Et là, quand je dis monde végétal, point de vue très très large, hein, on ne parle pas seulement de chanvre, mais vraiment sur l'ensemble des plantes. Ça nous apporte une compréhension globale plus pertinente, et c'est ce que on s'attache à enseigner dans nos formations et nos accompagnements de culture. On essaie vraiment de faire réaliser en fait un petit peu que l'agriculteur se rende compte d'un point de vue global de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de sa plante, qu'est-ce que la météo va y faire, qu'est-ce que tous les stress extérieurs vont faire à cette plante. Donc voilà. Et nous, on avait vraiment envie de ramener cette vision-là dans le monde pharma. Donc, c'était pas du tout quelque chose de courant. Absolument pas. Même, je te dirais qu'on nous regardait un petit peu avec des gros yeux au départ quand on a annoncé qu'on voulait le faire comme ça. Et finalement, je me suis.
Et finalement,
ce que je voulais dire, c'est que donc dans ces entreprises pharma, on a également pu cultiver en outdoor pour mettre en évidence aussi ces différences et choses qui paraissaient complètement impossibles au sein de ce cadre pharmaceutique. On a pu prouver le contraire, qu'on peut faire quelque chose de très technique, de très contrôlé avec des produits naturels. C'est pas parce qu'on a un produit naturel que ça veut dire que il y a pas de technicité, il y a pas de réel savoir là-dessus et qu'on peut tout faire un peu comme on a envie. Non, non, ça reste quelque chose de très calculé, très mesuré. Voilà. Et encore une fois, la traçabilité, elle peut être faite du début à la fin sur l'ensemble des produits qu'on va utiliser, sur l'ensemble des composants qui vont faire nos recettes de super soil. Voilà. Tout est tracé, et bien sûr, 100% organique.
Eh ben, écoute, je suis très content que finalement, tu aies ajouté ça. Je trouve que c'est vraiment une information très, très bonne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté.
J'avais juste une petite chose juste à ajouter. Comme tu veux dans ton montage, mais pour nous aussi, il y a une belle réussite. C'est aussi quand on peut voir un agriculteur qu'on a accompagné et qui réussit à atteindre ses objectifs et à intégrer comme sienne nos méthodes de travail. Et même si par la suite, il va forcément avoir moins besoin de nos services, en fait, ça n'a pas vraiment d'impact négatif sur nous, puisqu'il, de toute façon, il nous recommande à son réseau et de nouvelles opportunités en découlent. Et du coup, voilà, notre équipe s'agrandit et c'est que mieux. On avance que dans le mieux.
Complètement. Les réussites aussi de tes producteurs sont aussi bénéfiques. Eux aussi vont certainement distiller cette information et au final,
bien sûr,
en profite. Et puis, il peut y avoir des retours d'expérience aussi très riches de ces producteurs-là.
Exactement. Exactement. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en formant les autres, on apprend de la même manière. Nous-mêmes, on continue d'apprendre. Vous savez, on dit souvent, on apprend de ses échecs. Ben là, en fait, pour nous, on apprend de double échec, les nôtres et ceux des personnes qu'on a en face de nous. Donc, du coup, on peut vraiment
ensemble. Est-ce que tu as quelque chose là, comme ça, en tête, d'un apprentissage que tu as fait récemment et tu t'es dit, ouais, ça va beaucoup changer, ça va changer beaucoup de choses?
Alors, notamment sur les mélanges terreux, on s'est rendu compte, en fait, alors pas tellement sur les mélanges terreux, mais sur les quais de compost, par exemple. Il faut savoir que les quais de compost oxygénés, c'est quand même le fruit de un peu plus de 10 ans de recherche et développement de la société Terralba, qui a mis au point ces mélanges, donc qui a eu le temps d'affiner et de rendre plus efficaces ces quais de compost sur différents types de cultures. Hein. Et donc là, par exemple, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que avant, on utilisait des thés différents suivant les stades de croissance des plantes. Alors que là, maintenant, on va utiliser le même thé sans changer la recette de la croissance jusqu'à la floraison. Et c'est la plante elle-même qui va décider, au moment où elle l'a décidé,
de commencer par l'entrée, puis le repas, puis le dessert.
Exactement. Et qu'en fait, ce thé de compost est simplement une information qu'on lui donne, un peu comme, je dirais un petit peu comme l'homéopathie. un petit peu comme l'homéopathie, c'est-à-dire on va glisser une information en disant comment expliquer ça? Le thé de compost, c'est un ensemencement bactérien. Donc en fait, on va balancer nos bactéries qui, elles, vont interagir avec le super soil. Et en fait, le pari que nous on fait, c'est qu'on va les laisser se débrouiller. Tout ce qu'on fait, nous, c'est construire, entre guillemets, la piste de danse, mettre les danseurs en place et envoyer la musique. Et après, c'est tout le monde se débrouille en parfaite harmonie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis un petit peu du temps aussi à se rendre compte, à justement vouloir tout contrôler, vouloir être au plus précis sur nos apports. Eh bien, on a un petit peu revu ça. On a un petit peu revu cette manière de penser et peut-être de faire un peu plus confiance à la plante.
Je trouve ça assez incroyable comme conclusion. Apprendre d'un échec pour au final faire confiance à la plante. Merci beaucoup, Flavien. Casal, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous toutes tes infos, toutes tes expériences.
Alors, merci.
Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures et tous tes apprentissages? Un site internet, un blog ou
J'ai une petite confidence à faire, c'est qu'on est vraiment pas très réseaux sociaux.
D'accord.
Malheureusement, on va essayer d'arranger ça justement en essayant un petit peu de donner ces tâches à d'autres personnes qui sont beaucoup plus au fait de ces technologies-là. Nous, notre passion, c'est réellement être au contact des producteurs, d'être sur le terrain, comme on dit vulgairement, d'avoir les mains dans le cambouis, quoi. Et on est plutôt axé là-dessus. On peut bien entendu nous joindre à travers. Moi, je suis quand même sur LinkedIn, donc on peut me joindre par rapport à ça et la société, par rapport à la société Silica Seeds aussi.
Comment est-ce que tu dis? On le mettra dans la description de l'épisode, mais histoire qu'on l'entende bien. Silica Seeds.
Voilà.
Flavien, merci beaucoup.
Voilà.
Si jamais tu as quelque chose qui te revient en tête, on le rajoutera bien sûr dans la description.
Ouais, moi j'avais juste le petit mot de la fin, j'avais mis après, tu vois, si tu veux le mettre ou pas, si c'est pertinent.
Ah bah bien sûr.
Pour le petit mot de la fin, en fait, moi, je voulais dire que je me cantonne, c'est un petit peu mon mantra depuis quelques années, c'est fais bien et ne crains rien, parce que dans tous les cas, on peut pas tout maîtriser et on peut pas tout réussir parfaitement, mais on peut choisir de donner le meilleur de nous-mêmes et peu importe le résultat, on aura fait pour le mieux. Et dans le pire des cas, on aura fait les choses en conscience avec tout notre cœur, tout notre énergie, et on le voit de toute façon depuis ces dernières années. Même si le retour est pas immédiat, le retour se fait.
Incroyable, génial. Fais bien et ne crains rien. Si le retour n'est pas immédiat,
fais bien et ne crains rien. Je pense que c'est vraiment, on peut rester. C'est vraiment notre mantra. Et après, voilà, quand on a donné le maximum, on n'a plus de regrets à avoir sur rien du tout. On a fait le max dans tous les cas.
Merci beaucoup.
Voilà.
Un de ces jours. Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde, ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.